merci à toutes et à tous d'être si nombreuses et si nombreux. Il fait une chaleur à crever dans l'Empire Richelieu de la Sorbonne. Très heureux de vous retrouver pour cette émission de Backseat spéciale 50 ans de Libé. Merci à vous d'être là. Bonsoir le chat, bonsoir à toutes et à tous. Je ne suis pas tout seul, je suis avec de très très belles personnes qui nous ont rejoints sur ce plateau. Ce soir, on fait un plateau spécial Backseat. Je suis très bien entouré. On est avec Léa Chamboncel. Salut Léa.
Bonsoir.
Applaudissements pour Léa. Extraordinaire. Léa, podcasteuse et fondatrice de Popol Media. Merci à toi d'être avec nous. À côté de toi, on est avec Thomas Legrand. Salut Thomas.
Salut, bonsoir Jean.
Thomas, tu es éditorialiste politique à Libération et tu es également producteur à France Inter. C'est à toi qu'on doit la formidable émission Enquête de politique.
Voilà, il faut écouter le samedi à 18h.
Ou alors en podcast. Hein, mais
en podcast, mais ouais. Comme vous voulez.
Merci beaucoup d'être avec nous, Thomas. On est également avec Malek Délégué. Salut Malek.
Bonsoir à tous.
Malek Délégué. Toi, tu es conseiller en communication politique.
C'est ça.
Et ancien chroniqueur chez nos petits frères de la télévision.
Exactement. Et maintenant sur Twitch et à la Sorbonne.
Let's go. Ça fait trop plaisir de t'avoir, Malek, excuse-moi. Et on est aussi avec toi, Alexandra Schwarzbrod. Bonsoir, Alexandra.
Bonsoir.
Alexandra, tu es directrice adjointe de la rédaction de Libé, romancière également. Tu es grand prix de littérature policière pour Adieu Jérusalem. On est très content de t'avoir avec nous, Alexandra. Bon, bah ce soir, du coup, on fait un plateau mixte. Il est où, Usul ?
Je crois savoir qu'il est en route. J'ai demandé.
Bon, d'accord.
On m'a dit qu'il arrive.
Veut, hein. Non, mais il vient quand il veut.
Le petit Usul est demandé à l'accueil.
C'est totalement ça. Non, Usul, il arrive quand il arrive. Hein. Bon, les copains, c'est quand même un Backseat très particulier à l'occasion d'une journée très particulière. On est ici à la Sorbonne, dans l'Amphi Richelieu. Les gens sur Twitch ne le savent pas forcément, mais en fait, toute la journée ici, à la Sorbonne, il y a eu un grand événement à l'occasion des 50 ans de Libé. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Thomas ?
Eh ben, il y a eu plein de tables rondes avec où on a réfléchi avec.
Usul, voilà, mesdames et messieurs. Bonsoir Usul. Usul, tu es chroniqueur pour Backseat.
Bonsoir. Il est marqué 20h, il est 47.
Mais là, il n'y a pas écrit 20h. À quel moment t'avais vu 20h sur la feuille de service? Pardon, excusez-nous, c'est une discussion pour.
Non, mais ça, c'est. Le... T'as fait exprès.
En avance, en fait.
Tu voulais te faire désirer. Bah écoute,
oui,
voilà.
Oui. Classique. Bon,
pour ceux que ça intéresse, Usul, chroniqueur sur Backseat, Mediapart et Blast, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Usul.
Bonsoir.
Voilà. J'étais en train de demander à Thomas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, du coup, des tables rondes.
Des tables rondes, ici et dans un autre amphi, on a parlé de. Non pas des 50 ans de Libé, mais on a parlé de la gauche. Et la gauche est-elle réconciliable? Parce que la gauche est divisée. Et
sur pareil,
des
pareil.
Tas de thèmes, sur des tas de thèmes, les thèmes de sociaux, de la laïcité, ouais. Et puis aussi de la radicalité. Est-ce qu'il faut être plus radical? Est-ce qu'extrémiste et radical, c'est pareil? Est-ce que ça serait pas un peu raisonnable d'être radical, puisque la situation est quand même un peu tendue? Et voilà, nous, on est un journal qui accompagnons la gauche depuis 50 ans, ça me fait rigoler de dire ça parce que moi j'y suis depuis pas très longtemps. Mais en tout cas, Libération,
je suis
très corporate, donc ouais. Libération accompagne la gauche. Et là, en ce moment, il faut peut-être essayer de recoller les morceaux. Et puis, il y a un petit débat intellectuel à avoir, il faut réfléchir. Et un journal, ouais. Ça sert aussi à ça. Un journal, ça sert aussi à ça. Ça sert pas qu'à ça. C'est pas la base du journal. Hein. La base du journal, c'est de faire des reportages et de parler du monde, pas spécialement de la gauche, mais on est un journal. Bon, d'opinion.
En tout cas, oui, c'est ça. Mais quand on a commencé à préparer cette émission, on s'est dit qu'en fait, Libé et Backseat, on avait quand même un paquet de points communs. Par exemple, une passion pour la politique. Ça aussi, c'est spécifique. Libération est un journal politique.
C'est un journal politique, c'est un journal culturel, c'est un journal très complet, mais c'est un journal très politique, oui, et qui est né. De la politique, de la reconstruction ouais. Justement de la gauche après 1968. Ouais. Et donc, la politique a une importance énorme, mais aussi la culture très fort. Et puis, le journalisme. Le journalisme, et ça, c'est quelque chose de très important, le journalisme, c'est le reportage, c'est ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe dans la société. Et on a un journal observant le monde et la France.
Est-ce qu'on fait du journalisme, nous ? Non, je sais pas, je me tourne vers toi, Malek, t'en penses quoi, toi ? Chroniqueur, ça veut dire journaliste pour toi ? J'en sais rien.
Moi, je me considère absolument pas comme journaliste.
Ouais.
Moi, c'est de l'opinion. Éditorialiste, à la limite, me convient mieux.
Ouais.
Tu vois ? Que journalisme, je n'ai absolument pas la prétention de l'être, tu vois.
Ouais, non, mais je comprends. Usul ?
L'éditorialiste, c'est un journaliste parmi tous les métiers possibles du journalisme. Ouais, traditionnellement, enfin, il y en a toujours eu au 19e. Il y a déjà des gens qui, en fait, bon, bougent très peu de leur cabinet, mais lisent ce que font les autres et commentent et machin. En se basant autant que faire se peut sur les faits, évidemment. Ça, c'est
quand même, tant qu'à faire.
Bah oui, oui.
Enfin, encore que tu me diras. Justement, c'est aussi peut-être la limite du truc, c'est qu'on a vu aussi des éditorialistes
c'est un des métiers du journalisme, mais le journalisme, 80% des journalistes, ils travaillent pour la presse spécialisée, ils écrivent sur la chasse, ils écrivent sur la pêche, sur la voiture, c'est très vaste le métier de journaliste, et là-dedans, oui, éditorialiste, c'est une des spécialisations possibles.
On a le visuel de la première une de Libé sortie en 1973, vous pouvez la montrer en régie, voilà, prenez votre journal en main. C'était voilà le tout premier numéro de Libé. D'ailleurs, si vous vous abonnez à Libé avec l'offre spéciale Backseat, 10 € pour 6 mois d'abonnement, c'est quand même vraiment pas cher. Vous pouvez avoir ce premier numéro de Libé en version PDF.
Sinon, je peux partager mes codes gratos.
Non, commence pas.
Non. Le journalisme, ça se paye, c'est un coût.
Ouais. Et c'est moins cher avec Backseat. Enfin bref. Et donc du coup, pour les jeunes, qu'est-ce qui s'est passé en 73, Alexandra? Tu saurais nous raconter l'histoire de Libé? Pourquoi Libé a été créé en 73?
Alors moi, j'y étais pas en 73. Je suis arrivée en 94. Mais il faut voir la société dans laquelle Libé a été créée. C'était une société où il y a encore plein qui est encore très corsetée, où il y a plein de conventions. Libé a été créée pour faire sauter tout ça. Le maître mot, c'était la liberté. Liberté de ton, liberté d'opinion, liberté sexuelle. Faut voir, la société à l'époque était quand même très coincée. Et Libération, tout à coup, est arrivée et a fait sauter tout ça.
C'était un journal jeune.
Pardon ?
C'était un journal jeune. Ah bah, c'était un journal de jeunes.
Super jeune. Mais ouais. Super jeune, bien sûr. Oui, oui, très, très jeune.
C'est ce que Serge Lee disait dans le numéro spécial 50 ans que vous avez fait il y a un mois. Il parlait de la volonté de créer Libé autour de la volonté de parler ce dont la jeunesse était témoin aujourd'hui, mais dont personne ne parlait.
Oui, exactement.
Par exemple, le rock, en fait, simplement la contre-culture, les concerts. Il y avait des mouvements de la jeunesse, il se passait des trucs, mais personne n'en parlait. Donc c'était un journal jeune. Il fallait que les jeunes aient leur propre.
Totalement jeune, ouais. Qui parlait notamment de la nuit. Personne ne parlait de la nuit, de ce qui se passait la nuit dans les concerts, dans la rue, dans les boîtes. Et Libé avait même une rubrique sur la nuit. Et ça, c'était une nouveauté dingue à l'époque.
Les chroniqueurs de Backseat, pour vous, Libé, ça a quel rôle, ça a quelle place dans votre formation, dans votre consommation d'actu, Léa?
Oh, mais une grande place. Moi, tous les matins, je lis religieusement le Libération, sur Internet, notamment. Je continue à lire aussi Le Monde en format papier. Désolée, je suis pas abonnée à Libé en format papier, mais en numérique. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que ça m'a accompagnée tout au long de ma politisation, en quelque sorte. Moi, j'ai été politisée relativement jeune, vers 14-15 ans. Et je suis partie en échange au Brésil pendant un an, et ma maman m'achetait les unes de Libé, les grosses unes de Libé, genre.
Ah, genre affichées dans ta chambre.
Ouais. Je suis rentrée, j'avais tout un tas de journaux de Libé que ma mère m'avait acheté pendant mon absence, et d'ailleurs je le remercie, c'était assez chouette. Donc il y a toujours eu un attachement très fort, un journal qui m'a vraiment accompagnée tout au long aussi de mes études. Et un journal d'opinion qui fait du bien en somme, parce que quand on lit Le Monde à côté avec des choses peut-être un peu plus techos, qui est important aussi, bien sûr, mais on a cette approche, ce regard engagé, et on va en parler, je pense, qui est assez frais et qui continue à perdurer.
Mais on revient Alexandra, justement au mot liberté. Il y a une liberté de ton totale à Libé, c'est-à-dire quelqu'un veut écrire un billet d'opinion sur un sujet, n'importe quel sujet, il peut le faire, quel que soit son âge, quel que soit même s'il est là, Thomas écrit pour nous depuis un an, il peut écrire ce qu'il veut, par exemple.
Oui, bien sûr, il est engueulé avec les gens.
Oui, j'ai écrit avant-hier un papier qui n'a pas plu au chef du service culture, il l'a dit même sur Twitter, mais c'est pas grave, la vie de Libé, c'est une vie mouvementée, c'est une vie tumultueuse. Moi, ça m'a toujours fait rêver. Je suis journaliste depuis bien longtemps, depuis plus de 35 ans, et j'ai toujours eu des copains à Libé, j'ai toujours lu Libé, et j'entendais toujours les disputes, toutes les discussions. Ça bouillonnait, c'est un journal qui bouillonne. Alors, Alexandra, je vais pas, nous deux, là, on n'est pas les plus jeunes de
on moi, s'en fout, la jeunesse, c'est
je
pour
suis
la
plus,
vie.
Je suis peut-être le plus jeune. Rentré. Mais c'est un journal qui reste très jeune. la plupart des journalistes
sont jeunes. Oui,
il y a plein de journalistes très jeunes.
Ouais.
Et
on
voilà,
a beaucoup
ça se voit pas avec
jeunes.
Nous deux ici, ouais. Hein, ouais. Un peu par hasard. Mais parce que les autres boss, ils sont en train de faire le journal, parce qu'il y a c'est tous les jours.
Bah oui.
Mais voilà, et ça reste ça. C'est le bouillonnement. Et l'IB, c'est un journal qui fouine et qui va voir ce qu'il y a dans la société. Est-ce qu'il y a de nouveau C'est connu pour ses unes, tu as raison.
Mmh,
et les unes, si on fait toutes les unes de l'IB de ces dernières années, et d'ailleurs, il y a un très beau livre sur les 50 ans de l'IB avec la photo, l'iconographie, la photo de l'IB est très
importante. Toujours très présent dans l'IB. Là.
Et ouais. Les unes sont souvent mythiques, avec des titres un peu des jeux de mots, des bons jeux de mots bien foireux, comme on aime. Et
on les bosse beaucoup.
On les bosse beaucoup. Malek, toi, Libération
Bah, je vais me faire engueuler par Thomas, mais moi, mon premier rapport avec Libération, ça a été un partage de code aussi.
on a tous commencé.
J'ai politisé aussi très jeune, et je me souviens que c'est mon pote Sébastien qui m'a filé les codes, et ensuite j'ai été collaborateur parlementaire à 18 ans, et j'avoue que je grattais les codes de mon patron pour pouvoir lire Libé tous les jours.
Mais tu lisais Libé tous les jours.
Tous les jours.
Très tôt. Ouais.
Et alors moi, j'ai toujours eu un focus sur les pages idées. Avec l'espace de l'opinion, ça m'a toujours intéressé, ce qui m'a aussi permis moi de me construire. Et j'aime beaucoup cette ouverture que fait Libé. Là, la belle offre pour Backseat en est une, mais il y a eu plein d'offres pour les moins de 26 ans. J'ai vu que moi, je partageais à mon petit frère notamment, et même aussi avec les newsletters. Je lis chez Paul tous les matins. Ouais. Voilà, ça me fait rire. Il y a des jeux de mots, c'est sympa. On apprend des trucs, des petites indiscrétions. Il y a un vrai taf. Et il y a aussi plein de jeunes journalistes chez Libé que moi j'ai croisé dans ma vie pro sur le terrain, ou alors même c'est l'été dernier un mariage. Voilà, salut, tu fais quoi? Je suis journaliste à Libération, Service Culture. Voilà, et on a eu le temps. J'ai fait le débat sur les 50 ans de Libé. Avant ce soir, désolé.
Bah non, mais c'est cool. Jules, toi, Libé, c'est un journal que t'as beaucoup lu.
Bah à la base, pas trop, parce que il y a eu toute une période référendum 2005, etc., où j'étais peut-être trop à gauche pour Libé.
Ouais.
Il y a eu.
Où Libé n'était pas assez pour toi, on peut le dire. Ça,
où Libé n'était pas assez pour moi, ou alors la place qui était faite aux uns et aux autres dans ce débat qui est Libé ne correspondait pas à ce que moi je cherchais. Voilà. Je préférais lire Le Monde Diplo ou d'autres trucs. Et puis, je m'y suis mis quand même au bout d'un moment. C'est devenu le petit rituel, le Libé, le café, le matin. Il y a des chroniques, des trucs, le fait qu'il y ait à la fois, il y a Schneiderman, il y a Chapoutot, c'est incroyable.
Ouais, c'est
Yoann Chapoutot, un historien qui est super intéressant.
Yoann Chapoutot. Ouais. Et non, Libé, c'est devenu un peu le truc du café du matin. Alors, le confinement a tout niqué, je suis passé en numérique. J'ai arrêté d'acheter le Libé du café parce qu'il était plus dispo. Je demandais.
Ah non, oui.
Plus, on avait un truc des distributeurs à Lyon qui faisait qu'il y avait plus de. Enfin bon, bref. Et sinon, je lis aussi Mediapart parce que sinon je où il y a aussi plein de jeunes journalistes qui font vivre la presse, le débat, etc. Ouais. C'est très bien.
Il y a Popol aussi. Popol, c'est pas mal.
Oui, il y a Backseat aussi. Commencez pas.
Il y a plein de trucs.
France Inter aussi.
Mais non, Libé vraiment. L'entendre aussi comme un carrefour où vont se rencontrer des tribunes contradictoires sur la même page. Enfin, sur la même double page,
ouais.
Et puis on regarde un petit peu ce qui se dit, et puis on se dit bah putain, ils ont invité l'autre con, bah évidemment il dit des trucs de con. Heureusement à côté il y a voilà. Et on fait son truc, quoi.
Moi j'ai une petite question pour vous de Libération.
Vas-y, Léa.
Qui trouve les jeux de mots? Enfin, est-ce qu'il y a genre une meuf, mec dédié? Est-ce que vous faites genre des brainstorming? Parce que c'est incroyable.
Ils sont trop
non,
bien.
C'est vraiment un travail collectif, c'est-à-dire que pour faire enfin, pas seulement à l'intérieur du journal, on a des éditeurs.
On est très très drôle.
Des jeunes éditeurs notamment qui sont super et qui adorent. Les jeunes à Libé sont encore plus attachés à l'esprit Libé que les plus anciens. Et donc les jeunes se prennent le chou parfois pendant une heure sur un titre pour essayer de trouver le titre qui va tilter. La une, on se réunit à plusieurs, à qui veut d'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde. Et là, on se prend le chou, on dit le plus de conneries possible parce que c'est là où tout à coup, on a les deux mots qui s'assemblent et qui font la bonne manchette. Mais ça peut durer 5 minutes, parce que tout à coup, jaillit une idée formidable, enfin en tout cas qu'on trouve, nous, formidable. Ça peut durer 2 heures, parce qu'on n'y arrive pas, on ne trouve pas, et on bute, et on ne veut pas sortir de la salle avant d'avoir trouvé la manchette qui nous plaît.
Libé, c'est aussi un journal engagé. C'est quand même une identité, on demande aux gens Libération, on nous répond au journal de gauche.
Oui. Alors,
c'est revendiqué, c'est souhaité.
Oui, bah c'est historique. Ça a été créé par Jean-Paul Sartre et ça a été créé par des gens de gauche. Et dans le panel des journaux français, Libé est de gauche. Alors, il y a une période, il était d'une certaine gauche. Et maintenant, il prétend être de toutes les gauches et d'essayer de revenir à une situation. Dis-moi si je me trompe, Alexandra, mais une situation où c'est un petit forum où les gauches s'engueulent. Mais c'est bien, on peut s'engueuler. En même temps, il n'y a pas d'enjeu. Moi, je peux parler, je m'engueule sur un édito et puis je peux changer d'avis en me disant, ben oui, mais en fait, il a raison. Je dis qu'une connerie, il n'y a pas de, je suis pas élu, je suis pas.
Mais on a toujours été le journal de toutes les gauches. Oui. Simplement, en fonction des gens qui sont là, la direction ou dans les jeunes embauches, le rapport de force entre la gauche de la gauche et la gauche plus.
Toujours un peu anarch quand même. Voilà. Il y a toujours cette.
Ça change.
Cette liberté qui.
Non, mais ouais, ok. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut. Il y a peut-être des jeunes, non, mais etc.
Il y a ce côté toujours un peu anarch, mais on parle deux secondes d'idées politiques,
vas-y.
Dans l'anarchie, il peut y avoir. Dans cette idée libertaire, il y a un peu le mot libéral aussi, quelquefois.
C'est là où je tiquais un peu sur un art.
ça peut être.
Non, mais ça. Quand je parlais de la période où je ne pouvais pas lire Libé.
C'est là où tu avais du mal.
Ou de la période de Morand, ou voilà, où il y a eu des moments où j'étais là.
Oui, mais il y avait toujours des pages qui te plaisaient si tu allais fouiller, mais bon, ça te fatiguait un peu.
Ouais, et puis moi, la culture, bon, le sport, bon. Moi, c'était la politique et bon, et l'économie aussi, un peu d'économie.
C'est un journal. Ce que je voulais dire quand même, c'est que c'est d'abord un journal et il faut. Moi, j'ai l'impression que depuis quelques années, en tout cas depuis qu'il y a cette nouvelle direction, Libé s'est d'abord recentré sur le boulot d'un journal. Et le boulot d'un journal, c'est les faits, le reportage, les enquêtes, révéler des choses. Novalfon dit qu'un journal. C'est écrire quelque chose, écrire demain matin dans le journal quelque chose qu'un puissant quelque part ne voudrait pas voir écrire. Et ça reste, il faut que ça retrouve ça, et c'est en train de retrouver ça, et ça c'est intéressant. Et ce qui me réjouit, moi, qui suis éditorialiste dans ce journal, c'est de regarder tous les jours les clics et le volume.
Parle bien dans le micro, s'il te plaît.
Le volume des oui, la radio, je ne connais pas très bien. Et donc.
Twitch.
Et de constater que le plus gros volume de clics, c'est sur. Check News, c'est sur les faits, les infos et tout ça. Pas sur l'opinion. Voilà.
On a retrouvé une tiens d'ailleurs de 1989 de Libération sur le changement climatique. Je ne sais pas si vous pouvez l'afficher. Objectif Terre. C'était en 89. Ouais. Libé a aussi été un journal qui a suivi des engagements avant-gardistes. C'est aussi un peu la douane. On parle des par exemple les droits LGBTQI+. Ça a été là aussi un combat de Libé. Il y avait les années SIDA. Il y a eu des moments aussi où Libé a été à l'avant-garde de la gauche. C'est toujours le cas aujourd'hui, Alexandra?
Ah bah oui, bien sûr. Il y a toujours. De toute façon, on voit bien que ces combats-là que l'on menait déjà il y a longtemps, ils sont toujours d'actualité. Hein. On s'est battu beaucoup pour les droits des femmes, pour l'avortement, contre la peine de mort. Enfin voilà, tous les grands combats. Pour les homosexuels. Enfin, tous ces grands combats de société, on les a menés et on voit bien que il faut continuer à les mener aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas fini. Non, l'égalité des droits, c'est pas une évidence qui est gravée dans le marbre. Il faut continuer à se battre pour ça. Contre les féminicides, par exemple, on a été parmi les premiers à faire le décompte, décompte mensuel des féminicides, qui est un fléau monstrueux. Et ça, il faut se battre pour essayer de faire cesser ce fléau. L'avortement, on s'est battu pendant des années pour le droit à l'avortement. Et on voit bien que ce combat, il faut le mener à nouveau. Parce qu'en Europe même, il y a des voix qui s'élèvent contre l'avortement. Donc, c'est vrai qu'on a été à l'avant-garde de tout un tas de combats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils sont toujours d'actualité. Et le dérèglement climatique, alors ça, c'est carrément.
Ouais, non, carrément.
C'est là maintenant. Nous, on a passé la démultiplier. Et là, on y va tous les jours, je crois. On a un papier sur le sujet parce que c'est gravissime ce défi-là.
Vous aussi, dans vos activités sur Internet, vous êtes engagée. Vous définissez comme engagée, Léa, t'es féministe.
Ah bah moi je suis même oui.
En fait tu as le droit de dire non mais
mais je ne dirais pas non puisque je suis effectivement féministe, je suis même militante, je peux le dire hein, et ma pensée, ce que j'essaie de transmettre, la déconstruction mais à la fois la construction aussi, parler du féminisme en tant que projet politique etc. C'est un travail à la fois effectivement d'information mais pas que, c'est aussi un travail de sensibilisation Et c'est de fait éminemment un travail politique, mais pas que. C'est aussi un travail qui permet, je l'espère en tout cas, de faire évoluer les mœurs, de sensibiliser les consciences. Je voulais juste revenir sur... on n'arrête pas de parler de la gauche, de la gauche, de la gauche, et j'ai le sentiment qu'on n'a pas encore pris le temps de définir ce terme. C'est Oula. Quelque chose d'important.
Oula. Non, mais... Oh.
Est-ce que vous avez 4 heures devant vous?
Non, mais voilà. Parce que du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Bah, un journal de gauche, c'est quoi? Sommes-nous de gauche, etc. Donc je suis allée voir sur Internet.
Ah, parce que
je me suis dit, je vais taper sur Internet.
Il y a Thomas Legros à côté, si tu veux.
Ouais, ouais, ouais.
Choisir.
Et du coup, je regarde et je vois, je tape gauche dans Larousse. Voilà, simple. Et là, je lis qui est de travers. Je ne suis pas tout à fait satisfaite. Finalement, je me dis, est-ce que ce n'est pas un peu ça, hein, la gauche aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas un peu de travers? Est-ce qu'il ne faudrait pas la remettre sur le droit chemin? Et en anglais, figurez-vous que ça veut dire socially awkward. C'est quand même très fort. Ça veut dire socialement bizarre. Donc voilà.
Donc,
et effectivement, politiquement, c'est quoi être de gauche? Thomas, chez Libération, c'est quoi le...
Oui, c'est vrai ça. C'est quoi le mot gauche?
Les gauches, la gauche...
C'est la question la plus compliquée. La gauche.
Je pense que ça pourrait être un débat au sein de la rédac en plus.
Oui, oui, ça l'est en permanence parce que tout le monde s'accuse de trahir la gauche. Et
la gauche, c'est plus qu'on trahit à un moment dans sa vie.
Ceux qui sont trop à gauche trahissent la gauche par la gauche. Ceux qui sont trop pas assez à gauche trahissent la gauche. Donc le saut de gauche, je suis bien embarrassé de devoir
la gauche, c'est la justice sociale, l'égalité des droits. C'est ça, la justice et l'égalité.
Moi, c'est la liberté,
la remise en cause de l'ordre,
liberté, égalité, fraternité,
l'émancipation. L'émancipation collective, c'est bien,
pour être précis.
Oui, mais ça peut être aussi l'autodétermination. Par exemple, on peut imaginer que les services publics de l'État permettent à des gens de s'émanciper même de leur propre famille. Et donc s'inscrivent moins dans le... Enfin, tu vois, quand t'as une famille, par exemple, homophobe, que tu dois te barrer de chez toi, est-ce que c'est pas au collectif? Oui, t'as raison, le collectif vient aussi, à un moment, créer ce truc-là. Donc l'émancipation, oui, collective, oui.
Ouais.
Oui, t'as raison.
Collectif et individuel. Individuel.
Mais il y a cette tension, même chez Marx, aussi, déjà, de ce truc-là.
Je suis impressionné par le nombre de gens que je vois, notamment sur Internet, notamment des jeunes qui ont une définition ultra précise de ce qu'est, et surtout de ce que n'est pas la gauche, qui est extrêmement cornaquée dans une définition très, très arrêtée, très stricte, et qui passent leur journée à trouver des bons et des mauvais points.
Et ils disent quoi alors?
Que Libé n'est pas de gauche.
Parce que pour eux, c'est quoi la gauche?
Ah, je crois que j'ai foutu la merde.
C'est la question,
je pense.
On en parlera avec notre invité politique tout à l'heure. C'est la question de trahison, de déception. La gauche, c'est un truc qui n'a jamais
vraiment existé. Notre invité politique a été accusé de ne pas être de gauche aussi. Donc
on va en parler aussi avec lui de ce que ça veut dire la gauche et de ce que ça ne veut pas dire. Mais...
Emmanuel Macron nous a même dit qu'il était de gauche parce que sa définition à lui, c'était le progrès. Voilà.
C'est pas ça, parce qu'il a essayé d'opposer effectivement progressisme.
La liberté et l'égalité.
Non, surtout progressisme via le monde réac en quelque sorte. Est-ce que vous, pour vous, Macron, il est de gauche ou pas? Moi, j'ai ma petite idée, mais...
Alors, est-ce qu'il l'est?
Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien vous entendre.
Lui, il prône le dépassement droite-gauche, et généralement, ceux qui prônent le dépassement droite-gauche ne sont surtout pas de
gauche. C'est les fascistes.
Ouais, c'était Mitterrand.
Mais
les fascistes,
au-delà
de ça...
C'est vrai. Au-delà de la boutade, très souvent, en sciences politiques.
Mais Macron n'est pas fasciste. Il a beaucoup de défauts.
On a dit généralement.
Non.
Des exceptions.
On peut dire que les fascistes aussi prétendaient dépasser.
On va le dire comme ça. La droite et la gauche. Oui, oui.
Oui, tout à fait. Oui.
Mais en tout cas, la question est ouverte, c'est aussi ça qui est beau avec la gauche, c'est que la question est ouverte, et Libération a fait aujourd'hui une journée de colloque où la question, en fait, est revenue en permanence.
Bah, voilà.
Non, mais c'est quoi la gauche, c'est de quoi
chacun
sa définition.
Chacun a une définition, mais c'est quand même une famille. On se reconnaît.
Il y en a pour qui c'est...
Non, c'est une famille dans laquelle on s'engueule. Moi, ma définition, si je devais en donner une, je reprendrais la définition de le triptyque de la République, parce qu'au départ, la République, c'est une idée de gauche, liberté, égalité, fraternité. Et alors là, il faut faire une hiérarchie. Est-ce que c'est la liberté en tête? Est-ce que c'est l'égalité? Est-ce que c'est la fraternité?
Est-ce que tu dirais...
L'égalité est centrale. L'égalité, la liberté est essentielle et la fraternité, on ne peut pas vivre sans. Donc j'ai du mal à faire une hiérarchie, mais je dis l'égalité est centrale. Voilà.
Y a aussi un point commun qu'on a, Baxit et Libé. En 50 ans, Libé, vous n'avez jamais interviewé Jean-Marie Le Pen. Vous n'êtes pas un peu intolérant? Il fallait que je la fasse, celle-là. Hein, et qu'en est-il de la démocratie, Libé, tout ça? Non, mais en vrai.
Moi, un parti qui prône la préférence nationale et donc qui exclut une grande partie de la société, qui refuse une grande partie de la société, qui est pour moi un parti anti-républicain, j'ai pas du tout envie de lui donner, de lui ouvrir le micro.
Mais par-delà la boutade, c'est la question que je voulais vous poser aussi, c'est qu'est-ce que vous faites des gens qui vous disent qu'un bon journaliste se doit d'être neutre et objectif? Quelque chose que j'entends beaucoup, avec lequel je suis pas d'accord, mais
objectif, ça veut rien. Alors objectif, ça veut rien dire.
Ouais.
Objectif.
Mais neutre alors, tiens.
Neutre.
Donner la parole à tout
neutre
le monde.
Neutre non plus. Il faut qu'il soit honnête, dire d'où il parle. Ouais, moi, c'est assez particulier parce que je suis à France Inter et à Libération. À France Inter, on interroge, on interview.
Notamment parce que la loi vous y oblige.
La loi nous y oblige. Pas que la loi. On est.
La direction.
Non, pas que la direction ni la loi. Je mets la direction dans la loi puisque c'est elle qui fixe la règle. Non. Moi, je suis tout à fait d'accord, étant à Libé, que Libé n'interroge jamais Jean-Marie Le Pen, ou Marine Le Pen maintenant, parce que c'est un journal qui se situe à gauche, qui défend certaines idées et qui n'a pas envie de donner, même avec la contradiction, de rentrer dans ce jeu-là. Mais une radio de service public se doit d'interroger la patronne d'un parti politique qui a un groupe représenté à l'Assemblée à partir du moment où les gens ont voté pour lui.
Ça voilà. Fait partie du package du service public, selon toi.
Oui, des journaux qui ne prétendent pas afficher une couleur politique. Nous, c'est un journal militant, donc il a le droit de choisir.
Engagé. Je dirais plus engagé. Un journal engagé que militant.
Il y a un débat au sein de la rédac sur le
Voilà.
Mais il y a tout le temps un débat. Il y a des débats.
Est-ce qu'on vous le reproche? Est-ce qu'on vous le reproche, cet engagement? J'ai l'impression que parfois, pour certaines personnes, sur certains citoyens, être engagé, c'est déjà quelque chose de pas bien quand on est journaliste. Il y a une espèce de dans l'esprit de beaucoup de gens, j'ai l'impression, une espèce d'incompatibilité profonde entre avoir un engagement et être journaliste.
Non, ce qui est incompatible, c'est le militantisme et le journalisme. Je pense que ça, c'est on peut pas, parce que là, du coup on n'est pas crédible. On sait pas d'où on parle.
Tu trouves que je suis pas crédible du coup? Parce que je milite, moi, en fait.
Oui, c'est vrai.
Mais le militantisme politique ou le militantisme en mode société civile, association?
Je pense que c'est compliqué quand même. Ou alors, il faut que tu sois très situé, que tu sois très clairement positionné.
Il faut mettre les cartes sur table, c'est sûr.
Nous, on a des billettistes et des auteurs de billets qui sont clairement des militants féministes ou autres. Et à partir du moment où on sait où se situe la personne qui écrit, d'où elle parle, au nom de quoi elle parle, tout va bien.
Vas-y, Thomas.
Je vais te donner un exemple. Un polémiste, pas journaliste, ou un homme politique et un journaliste engagé. Moi, si je suis dans une émission de télévision et que je suis dans un débat face à un journaliste du Figaro qui ne pensera pas la même chose que moi, je sais, parce qu'il est journaliste et qu'il a les mêmes relations aux faits, je sais que je peux débattre avec lui, m'engueuler avec lui, mais par rapport aux faits, il ne mentira pas. C'est-à-dire que je peux dire, voilà, sur l'immigration...
Éric Zemmour était journaliste au Figaro.
Mais non.
Et il ment.
Non, qui?
Éditorialiste.
Qui?
Non, Zemmour. Éric Zemmour. Non,
Zemmour a quitté la sphère journalistique petit à petit. Il est devenu polémiste et homme politique. Et c'est justement... Tu as remarqué que, comme il n'était plus journaliste, il est sorti. C'est ça. Mais moi, quand je débat, disons, avec mon alter ego, l'éditorialiste Guillaume Tabar, qui tous les jours, comme moi, fait un billet dans le... Je peux considérer que les faits qu'il traite, il les traite d'une mauvaise façon, qu'il surestime certains problèmes de la laïcité ou certains problèmes de l'immigration ou de l'économie, il prend pas le bon angle. Mais on se
mettra
pas sur
commun.
La réalité. On a un langage commun qui est un rapport aux faits. Et ça, c'est la base journalistique. D'accord. Sans ce rapport aux faits. Et après, à partir de sans ce rapport aux faits, on n'est pas journaliste. On a une procédure, on recoupe les faits. Quand on dit des choses, quand on affirme des choses, quand on révèle quelque chose, on a dû le recouper parce que, d'abord, juridiquement, nos journaux, alors, c'est pas rentrer dans des questions un peu chiantes, mais juridiquement, nos journaux sont des ont un statut juridique d'éditeur. Donc on a une responsabilité. Par exemple, tous les réseaux sociaux sont des hébergeurs. Vous pouvez dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, personne ne va vous engueuler.
C'est en train de changer.
C'est en train de changer, mais pour ça, ce n'est pas le cas. Nous, si on dit n'importe quoi, si on dit des choses qui sont fausses, on peut être condamné.
Libé a été le premier canard à créer un service de vérification des faits.
Ouais,
à l'époque, ça s'appelait Check News, qui s'est appelé Désintox. Oui. Et on a été les premiers à lancer ça. Et c'est un succès dingue. Ouais, d'ailleurs, dans le fameux top 10 dont parlait Thomas tout à l'heure, les papiers qui sont les plus lus, souvent, ce sont les papiers de Check News. Parce que les gens ont besoin qu'on leur dise, si ce fait est avéré ou pas. C'est hyper important.
Je précise pour ceux qui nous écoutent que le mot canard est un dans le jargon, ça désigne un journal. Voilà, c'est du
jargon
journalistique. Un canard, c'est un journal.
À la base, ça désigne une rumeur.
Oui, en plus, il paraît.
Mais et à la base, encore un petit animal.
Oui, bien sûr. Non, mais d'où le fait que le canard enchaîné, c'est justement que les rumeurs, machin.
On les enchaîne, voilà.
Je pensais que c'était de parler de moi avec mes meufs, mais.
Oh, Malek.
Oh là là.
Bienvenue sur Fun Radio. Usul, tu voulais dire un truc intéressant.
Ouais, et puis j'ai oublié avec cette histoire de canard.
C'est pas grave, je peux enchaîner si tu veux.
C'est quoi
l'avenir de Libé? Parce qu'on a aussi un point commun avec Backseat, c'est Internet. Mine de rien, Libé aujourd'hui, c'est un grand site d'information.
Libé aujourd'hui, c'est d'abord un site d'information.
Hein, c'est un site Internet.
Qui suit l'actualité.
Que vous imprimez sur papier tous les jours.
Et on en imprime une partie tous les matins.
Ok, d'accord.
Backseat, c'est un peu new libération, en vrai.
Ah, tout de suite.
Non, mais oui, en vrai.
Non, j'en sais rien, mais c'est quoi l'avenir? Comment est-ce que vous en parlez de l'avenir à Libé, Thomas?
Par exemple, moi, quand je fais un édito et que il est pas dans le print, c'est-à-dire la version print, en tant que vieil éditorialiste, je suis un peu vexé, je dis, oh bah merde, alors qu'en fait, il est plus lu étant dans le site que. Mais. Si vous allez sur le site de Libé, si vous vous abonnez à Libé, il y a une version print. Alors, c'est pas le papier, c'est la version print. Et moi, j'engage quand même les lecteurs ou ceux qui voudraient devenir lecteurs de regarder le print. Parce que je suis attaché à l'idée, dans le journalisme, il y a la hiérarchie. La hiérarchie de l'information, la hiérarchisation, la mise en page. Une mise en page dans un journal, quand on met des papiers ici ou là...
Libé.fr, c'est éditorialisé quand même.
Oui, mais si tu regardes, il y a les pushes, défile, c'est un peu comme ça, c'est un peu un robinet. Bon,
Est-ce que vous avez des algorithmes justement qui poussent des articles en fonction de nos utilisations? Pardon, je voulais pas t'interrompre, mais
Alexandra, c'est vous qui décidez.
C'est les plus jeunes qui s'occupent de ça.
Non, mais c'est très important ce qu'il a dit, Thomas.
Je suis un peu enfermé dans mes domaines de prédilection, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenue au format papier pour un autre grand quotidien que je ne citerai pas ici ce soir. Parce que justement, j'avais ce sentiment d'être complètement détachée, notamment de l'actualité internationale. Et là, ce grand quotidien que je ne citerai pas ce soir commence par l'actualité internationale. Et en fait, j'arrive à remettre un pied dedans. Alors qu'en réalité, si je restais sur juste l'application ou le format en ligne, j'avais l'impression d'être enfermée dans le politique et les sujets de société.
Souvent, c'est surtout l'actu brûlante qui nous pousse. Et donc, c'est ce qui, s'il vient d'y avoir une attaque de drone sur Moscou, on fait remonter le papier le plus haut sur le site, parce que c'est ça que les gens viennent chercher sur le site d'Libé, l'information la plus chaude. Donc, on refait monter des papiers quand on voit que l'actu reprend. Sur l'avenir de Libé, ce que tu demandais tout à l'heure, ce qui est intéressant, et moi je l'ai vécu, parce que quand même j'y suis depuis 1994, et on en a vécu des crises dingues. Je ne sais pas, vous les avez peut-être pas vécues, ces crises connues, mais moi je nous ai vus mourir. Mais vraiment, il y a eu des moments où Libé était au bord de déposer le bilan, aller au tribunal de commerce. Et chaque fois, il y a une espèce de. Alors, c'est entre le. Moi, je ne crois pas trop au miracle, mais il se passe quelque chose qui fait que Libé a toujours réussi à surmonter ses crises, les crises. Et je trouve que c'est ça qui est génial à Libé. C'est qu'au dernier moment, quand on croit que tout est foutu, ben non, il y a quelque chose qui se passe. Et Libé repart. Et ça, c'est formidable.
Et maintenant, ça va mieux?
Non. Là, on est dans des nouveaux bureaux qui nous ressemblent bien, parce qu'on était dans des bureaux assez froids.
En face du ministère de la Défense.
Ouais,
dans un quartier de droite, en plus.
Donc, voilà. Là, on est dans le 13e. On est tout seul dans nos bureaux. Et puis il y a une nouvelle énergie qui est là. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a embauché beaucoup de jeunes, et donc ça brasse, ça débat, ça s'engueule, et c'est super.
On parlait de conflit de génération, enfin tout à l'heure vous en parliez.
Vous êtes en 5e position des plus gros lives français sur Twitch, donc
joli.
Ça marche bien.
Vous parliez des conflits de génération.
Ouais. Vas-y Léa, vas-y.
pardon. Vous parliez des conflits de génération plutôt sur la séquence précédente. Est-ce que, là tu viens de dire que vous employez énormément de jeunes, est-ce que vous, par exemple, qui avez une expérience un peu plus ancienne du métier de journaliste, vous sentez...
C'est joliment dit.
Vous sentez qu'il y a peut-être des conflits sur la façon de faire du journalisme entre les jeunes et vous?
La façon de faire, non, je crois pas. Non.
Les
non,
approches,
vraiment.
C'est...
Non, je crois que tous ceux qui sont à Libé ont la même conception, la même envie de faire du journalisme. Ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Le débat, il est plus sur les opinions. Parce qu'évidemment, la jeune génération est beaucoup plus radicale que la plus ancienne. Et donc, parfois, on peut...
Sur certains sujets, oui, c'est vrai.
Usul. Ah,
oui.
Moi, j'ai une question, parce que moi, ce que j'aime bien, j'ai été du coup amené maintenant à côtoyer pas mal de journalistes. Et ce que j'aime bien chez les journalistes...
Des vrais.
Hein?
Des vrais.
Oui, pas de ceux du jeu vidéo ou je sais pas quoi. Et ce que j'aime bien, moi, c'est la culture des vieux journalistes. Voilà, de connaître, machin. Et, non, mais ça fait plaisir.
Ah, mais c'est
moi, un bon journaliste, c'est quand même qui sait te dire, ouais, en 83, machin, mais même en presse locale. En presse locale, quelqu'un qui sait, moi, à Lyon, je vois des journalistes qui me disent, ah bah, c'était pas comme ça en 95, parce qu'il y avait truc, puis il y a eu le procès, machin. Et cette mémoire emmagasinée qui va faire les papiers d'après. Et donc, comment on fait la transmission? Est-ce qu'il y a des cadres prévus pour que cette transmission se fasse entre cette nouvelle génération qui a encore pas mal à apprendre et cette vieille génération sûre de son savoir qui parfois peut être aussi arrogante sur ce qu'elle va penser de la société telle qu'elle va aujourd'hui?
Sûre de son savoir, en tout cas, moi, je me suis jamais sentie sûre de mon savoir. Mais moi je trouve qu'on apprend. Alors ça peut paraître bateau ce que je vais dire, mais moi j'ai l'impression d'apprendre autant des jeunes qui sont là que apprennent de moi. C'est-à-dire, c'est ça qui est génial. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par l'égalité, la solidarité, qui sont des valeurs de gauche. Je crois qu'à Libé, vraiment, on le pratique tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des vrais échanges et un jeune peut engueuler un plus âgé en comité de rédaction en disant que c'est vraiment des conneries ce qu'il a écrit dans le journal ce matin, et ça pose aucun problème. Et c'est en permanence ça, ce jeu. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette.
Moi, j'adore, par exemple, tout à l'heure, je discutais avec Nicolas Massol, qui est un des jeunes journalistes qui suit l'extrême droite. J'ai beaucoup suivi l'extrême droite quand j'étais jeune, dans les années 80, 90. Il avait lu des livres que j'ai lus. Il avait lu même des livres que j'ai écrits. Et puis, il connaît plein de trucs que je connais pas. Et parce que lui, il fouine comme je fouinais à l'époque. Je me suis reconnu là-dedans. Et il m'apprend plein de trucs. Et c'est vachement agréable. Et on transmet comme ça. Et moi, j'ai reçu aussi de vieux journalistes, que je trouvais à la fois cultivés, puis un peu ringards, qui écrivaient un peu, j'aimais pas écrire comme eux, et lui, il doit penser la même chose. Mais il y a un sujet sur lequel, que je trouve vachement intéressant, moi, c'est le rapport garçon-fille, le rapport du genre.
À l'information ou au métier?
Non. Cette façon. Que cette jeunesse a d'interroger la domination masculine, ces choses-là, qui n'étaient pas dans la culture de quand on a commencé le journalisme, nous, Alexandra et moi. Et il y avait aussi dans cette hiérarchie journalistique quelque chose d'assez masculin, le vieux rédac-chef qui picolait, il y avait toute une imagerie comme ça.
Puis les femmes, elles rentraient plus tôt, et puis c'est les mecs qui restaient un petit peu pour boire des coups, parce
que
c'était leurs femmes qui s'occupaient des gamins, de toute façon.
Dans quelques minutes, on va recevoir notre invité politique ce soir pour cette émission spéciale. C'est François Hollande, l'ancien président de la République, qui a accepté notre invitation.
Pas vrai.
À Libé et à Baxi, je te jure que si. François Hollande qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. C'est pas tous les jours qu'on interviewe un ancien président de la République, même vous à Libé, c'est pas tout le temps. Qu'est-ce qu'on en attend de cette interview, de cet échange qu'on va avoir avec François Hollande, Alexandra?
Bah, beaucoup de choses, parce que le François Hollande, il a plein de défauts, mais il a aussi plein de qualités, et notamment celle d'être assez spontané, de dire les choses.
Ouais.
Et enfin, on va voir s'il l'est. Et je pense que vu, on a passé la journée à débattre de la gauche et de l'état catastrophique dans lequel se trouve la gauche aujourd'hui, qui est divisée, et on n'a jamais eu autant besoin de la gauche pour contrer la montée de l'extrême droite. Bah, ça va être très intéressant de l'interroger justement sur l'état de la gauche, qui en est responsable, pourquoi, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour recoller les morceaux. Voilà, il y a aussi plein de choses.
Il y a aussi la question du conflit de génération qu'on voulait aborder avec François Hollande, parce qu'il avait fait la priorité jeunesse. C'est ce qui lui avait permis d'ailleurs de remporter la primaire qu'il a catapulté vers l'Élysée en 2011. L'idée du conflit de génération, sommes-nous face à un conflit de génération? Est-ce qu'il y a des générations irréconciliables, pour filer la métaphore avec les gauches irréconciliables? Ça fait partie des sujets qu'on voudrait aborder avec lui. Usul.
Moi, c'est pas tant sur la gauche. C'est vrai que c'est pas vers lui que je vais me tourner d'emblée pour me dire comment on reconstruit la gauche. Par contre, en tant qu'homme d'État, moi, ça m'intéresse de savoir où on va comme nation, là, où on va comme État. Qu'est-ce qui fait qu'on fait encore un truc commun, là, qu'on est encore ensemble? Macron qui a lâché comme ça le mot de décivilisation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'anomie? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ces services publics, voilà, qui nous maintenaient ensemble, de structures communes, de choses qui faisaient qu'on faisait nation, une éducation nationale, des choses, un hôpital, plein de trucs qui ont progressivement un petit peu disparu, en tout cas comme horizon de commune. Est-ce qu'on en a encore un horizon commun, et qu'est-ce qu'il va falloir reconstruire en premier si on veut reconstruire un pays qui tient à peu près debout?
Eh ben,
qui sombre pas dans ni les attentats d'extrême droite, ni quoi que ce soit, tu vois, voilà.
Eh ben, ça va faire partie des questions, effectivement, qu'on va aborder avec lui.